France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le camp de concentration de Buchenwald était l'un des rares qui permettait aux déportés de recevoir des colis. Ces colis créaient de fait une hiérarchie, ou du moins une inégalité entre les prisonniers. Ceux qui en recevaient étaient en meilleure santé et pouvaient soit consommer ce qu'on leur envoyait, soit revendre certains biens pour obtenir des faveurs à l'intérieur du camp. Mais dans le bloc français, une véritable organisation solidaire se met en place autour de ces colis. On décide, malgré les réticences de certains, de partager les colis entre tous les Français. Mais pas seulement. Les Juifs venus d'Auschwitz, les Yougoslaves, les Belges et surtout les malades ont été aidés par ces dons nécessaires pour survivre. C'est l'organisation de cette solidarité, seule lumière au milieu de l'enfer de Buchenwald, que raconte ce 9e de 27 épisodes de la série « Le monde concentrationnaire ». Une émission de Francis Crémieux avec les témoignages de Jacques Gallier, Yves Darrier, Christian Pinault et André Verdet, diffusée pour la première fois le 6 mai 1965.
Le monde concentrationnaire. Témoignages et documents pour servir l'histoire. La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Aujourd'hui, l'exemple de Buchenwald, la solidarité. Entretien avec Yves Darrier, Jacques Gallier, Christian Pinault et André Verdet.
Les résistants français déportés à Buchenwald ont donné l'exemple de la solidarité. Sans doute, cela leur était-il moins difficile qu'à leurs camarades déportés dans des camps plus durs où l'on ne recevait pas de colis. C'est M. Christian Pinault qui fut l'un des organisateurs de cette solidarité entre Français qui bientôt déborda largement le cadre national et que l'on peut considérer comme l'un des axes premiers de la lutte politique des résistants français à Buchenwald. Monsieur Pinault, je voudrais votre témoignage et sur cette résistance et sur cet aspect plus particulier de la résistance que fut la solidarité.
D'abord, il a fallu qu'il y ait dans le camp un nombre suffisant de Français pour se connaître, pour se grouper, pour s'apprécier, pour connaître plus ou moins le rôle qu'avait joué chacun. Et aussi parce que dans les blocs de Français, nous nous sommes trouvés confrontés avec ce problème qui est, à mon avis, le plus grave sur le plan moral auquel j'ai eu à faire face durant ma déportation, qui consistait précisément du fait que c'était les détenus, l'arbeit statistique, qui décidaient des départs en commando, nous étions amenés à avoir une opinion sur ceux qui devaient partir ou sur ceux qui devaient rester. Et souvent, partir signifiait la mort, alors que rester, c'était encore un espoir de survie. Et ce problème des choix s'est posé presque tout de suite. Bien entendu, il y avait d'abord les réflexes égoïstes, je ne peux pas les nier. Chacun se disait, moi j'ai intérêt à rester, et faisait tout ce qu'il pouvait pour rester. Et puis il s'est constitué ensuite ce que j'appellerais le choix collectif. Nous avons eu des membres, sinon des chefs de bloc, du moins de ce qu'on appelle les Stubedienst, c'est-à-dire les adjoints aux chefs de bloc, qui étaient des Français, qui avaient leur avis à donner et qui le donnaient aux chefs de bloc. Et lorsque nous avons touché à un chef de bloc beaucoup plus humain, beaucoup plus compréhensif, à partir de ce moment-là, le chef de bloc a consulté un certain nombre d'entre nous sur les départs. Et alors là, il a fallu trouver un critérium. Et ce critérium, ça a été la tenue des intéressés à l'intérieur du bloc, et en particulier ce fameux problème de la solidarité, c'est-à-dire du partage des colis qui a divisé le camp en deux pendant plusieurs mois.
Pourquoi, pour vous, la solidarité a été une tâche politique, disons une tâche résistante.
Nous étions un certain nombre à recevoir des colis. Et bien entendu, si je n'en avais pas reçu, et pas reçu beaucoup, je n'aurais pas pu jouer ce rôle. Car ce rôle ne pouvait être joué que par quelqu'un qui n'y avait pas intérêt, naturellement. Et nous avions beaucoup de camarades, surtout parmi les jeunes, tuberculeux, malades, etc. Beaucoup qui étaient partis sans pouvoir donner leur corps, donner à leur famille, et qui ne recevaient pas de colis. Et je me rappelle avoir, c'est en mars, c'est-à-dire bien avant l'arrivée de Marcel Paul, avoir dans mon bloc proposé le partage pur et simple des colis. Ça a été une tempête, et je dois dire que même mon chef de bloc n'était pas tellement partisan, parce que lui-même, sur tous les colis des Français, prélevait un bon quart pour sa consommation personnelle.
Excusez-moi, thèse, antithèse, force en présence, levée de bouclier, quelles étaient les thèses des gens hostiles au partage ?
Eh bien, elle a été une fois exprimée par un détenu dont je ne vous dirai pas le nom, parce qu'il est revenu et que c'est une personnalité française encore importante aujourd'hui, qui répondait à mon beau-père à propos de la solidarité dans son bloc par cette phrase que j'ai plusieurs fois citée. Le partage des colis, c'est une grande générosité. Bien sûr, je suis d'accord sur le principe. Mais vous savez, mon cher, disait-il à mon beau-père, c'est une atteinte au droit de propriété. Et si nous commençons ici à porter atteinte au droit de propriété, alors nous ne savons plus où nous allons. Voilà quelle était la thèse du juriste qui défendait les opinions opposées à la nôtre. C'était assez comique, je dois le dire, dans un camp comme celui-là. Mais enfin, passons sur ce point. En réalité, la véritable raison, c'est que ceux qui recevaient des colis voulaient les manger et n'entendaient pas les partager, c'était extrêmement simple. Il y en a même qui disaient « Quand je pense aux soins que ma pauvre femme a mis à me confectionner ce colis », il y en a un qui m'a dit une fois « Mais quand je mange les biscuits qu'elle m'envoie, c'est un peu comme si je faisais la communion ». Et par conséquent, je ne peux pas donner des biscuits qui sont aussi sacrés que ceux-là. On a tout entendu dans cet ordre d'idées. Et petit à petit, le changement s'est fait. Et alors, c'est là où intervient la notion politique. C'est que la direction communiste a pris conscience de ce problème de la solidarité et des discussions passionnées qu'elle avait soulevées à l'intérieur du camp. Car ce sont les Français qui l'ont soulevé. C'est tout de même un de leurs mérites. Et alors, il s'est produit un phénomène qui se rallie à ce que je vous disais tout à l'heure sur le choix des détenus qui partaient. Eh bien, nous nous sommes aperçus qu'on a commencé par faire partir les plus farouches adversaires de la solidarité. Car la direction du camp a estimé que le refus de la solidarité était un acte de mauvaise camaraderie et devait comporter comme sanction un départ pour les mauvais commandos avant les autres. Et c'est là où le problème politique a joué.
Quand vous preniez la solidarité à l'intérieur de votre bloc, vous ne faisiez aucune différence entre résistants, raflés et droit commun?
Absolument aucune. Toute personne qui recevait un colis avait droit à en conserver une part, quand c'était des colis familiaux, et devait en donner au moins la moitié pour à ceux qui ne recevaient pas de colis. Et ensuite, quand ça a été des colis de la Croix-Rouge, nominatifs, ils étaient divisés en quatre. Et alors tous, il n'y avait pas de part particulière pour celui dont le nom était marqué sur un colis de la Croix-Rouge. C'était donc très strict à la fin. Je crois que ça a été un exemple assez bon et qui a beaucoup contribué à faire remonter la cote des Français dans le camp.
Est-ce que d'autres nationalités pouvaient aussi recevoir des colis ?
Il y avait les Tchèques qui recevaient beaucoup de colis, mais je dois dire que nous avons eu beaucoup de mal à les convertir. Je me rappelle même dans le bloc voisin, il y a un Tchèque qui m'a dit « Mais écoutez, pour le moment, nous recevons des colis, mais je vous promets que si nous n'en recevons plus, nous accepterons le partage. » Ce qui représentait bien le fond de sa pensée. Mais ça, c'était peut-être le cas extrême.
Les Allemands, comment ça se passait pour les détenus allemands? Ils recevaient des colis?
Ils recevaient des colis, mais en général, les détenus allemands étaient peu logés dans nos blocs. Ils habitaient dans les bâtiments de l'Arbeit statistique, dans les bâtiments des chefs de bloc. Ils avaient des fonctions dans le camp. Et par conséquent, leur situation matérielle était tout de même sensiblement meilleure. Et je dois dire tout de même, à leur décharge, qu'elle était sensiblement meilleure à cette époque, après avoir été aussi dure que la nôtre pendant des années. Pas parce qu'il faut tout de même se mettre dans leur état d'esprit et ne pas les accabler, ce serait injuste.
Donc la cote des Français remonte parce que les Français donnent un double exemple, l'exemple de la solidarité, donc de l'anti-individualisme, et l'exemple de la cohésion nationale, car vous m'avez dit que nous ne faisions pas de différence.
L'exemple de la cohésion nationale, mais tout de même, nous ne faisions pas de différence, mais peu à peu, dans l'esprit des détenus allemands, qui dirigeait le camp, il s'est fait une différence en fonction de la résistance ou de la non-résistance des détenus français. Et petit à petit, on a cessé de considérer que nous étions des suppôts de Pétain, nous sommes devenus des gens de la résistance. Et alors, ça a beaucoup changé également l'opinion que les autres nationalités avaient de nous.
Sur le plan, alors, des liaisons internationales, est-ce que cette solidarité, qui était tout de même une action de survie des ennemis du nazisme, a débordé le cadre national? Est-ce que vous avez été dans la situation d'aider d'autres nationalité.
Eh bien, nous faisions la solidarité par bloc. Il était difficile de faire autrement. Mais dans notre bloc, nous donnions aux autres, d'autres nationalités, la même chose que nous. Nous avions des Belges qui ne recevaient pas de colis, nous partagions avec eux. Nous avons eu des Yougoslaves pendant un certain nombre de mois. Je ne parle pas des Tchèques parce qu'eux en recevaient. Mais tous ceux qui n'en recevaient pas, français ou autres, le partage était fait dans le bloc. Il n'y a pas eu de solidarité interbloc vraiment organisée. Mais tout de même, lorsque sont arrivés notamment les Juifs d'Auschwitz, qui sont arrivés dans des convois lamentables, c'était quelque chose d'épouvantable, nous leur avons porté une bonne partie de nos colis, et en particulier quand il y avait des jeunes et des enfants, nous leur avons donné une partie importante de ce que nous avions.
Peut-être en essayant d'écrire l'histoire de la résistance dans certains camps de concentration allemands, peut-être sommes-nous trop axés vers la recherche de la résistance organisée et ne donnons-nous pas assez d'exemples d'une sorte de résistance individuelle. Tout ne s'est pas toujours passé comme le racontent nos témoins. Il y a eu d'autres possibilités. Je voudrais en prendre pour exemple l'histoire de Jacques Gallier. Jacques Gallier fut l'un des premiers groupes francs du mouvement Combat à Marseille. Arrêté par la Gestapo, il n'est pas identifié comme résistant. Et il est déporté à Buchenwald sans être toujours identifié comme résistant. Ce qui lui arrive est une aventure assez singulière, puisqu'aussi bien dès le premier jour, vous allez l'entendre le raconter, une solidarité joue, mais qui est beaucoup plus une solidarité corporative qu'une solidarité politique ou internationale.
Pour moi, quand je suis arrivé, et j'ai été comme tout le monde, on m'a mis à poil et pour passer être rasé et aller aux douches. Et je suis tatoué, puisque j'ai été marin et pas très bon marin. Et comme tous les pas très bons marins, j'ai été tatoué en prison maritime. J'ai un tatouage qui représente un angle de marine assez volumineux. Et automatiquement, il est venu un Allemand vers moi. Et l'Allemand m'a dit « matros, politique, matros ». Qui me demandait si j'étais un marin allemand, arrêté en tant que politique. Parce que beaucoup d'Allemands qui étaient marins ont été arrêtés chez eux en Allemagne pour la politique. Pour eux, un matelot était en général un révolutionnaire. Et ils ont pensé que j'avais été arrêté comme ça. Donc automatiquement, quand je lui ai dit que j'étais un marin, ils m'ont pris à leur charge. Le lendemain, à l'appel, il a été demandé en plusieurs langues par les interprètes s'il y avait quelqu'un qui connaissait les animaux, des chiens, des lions ou n'importe quoi. Et j'ai levé la main, j'ai dit moi, parce que avant la guerre, j'avais travaillé avec une femme qui était dompteuse, qui s'appelait Martha la Corse. Donc je connaissais un peu les animaux. Je ne savais pas quel genre d'animaux ils parlaient, et j'ai dit moi. Et on m'a sorti des rangs, et j'ai été mis au jardin de...
D'acclimatation ?
Non, de Goethe, là, jardin de Buchenwald. Et je me suis occupé des singes, des chiens... des loups et de l'ours, je mangeais des bananes, je mangeais des oranges, je buvais bien et je mangeais bien. Ce qui fait que le premier mois, pour moi, n'a pas été très difficile. Mais il y a eu un départ sur Dora, et alors là, je suis encore parti sur Dora. Mais avec ma recommandation de Buchenwald, de mes copains navigateurs, enfin marins, je suis retombé à Dora, où j'ai été de suite mis en contact avec un nommé Jacob, et qui était encore là, le capot du Lagerkommando, et qui automatiquement m'a nommé Vorarbeiter au transport des morts, c'est-à-dire Todträger.
Et est-ce que vous considérez que ces navigateurs étaient des politiques ?
À tous, Triangle Rouge, tous des politiques, vraiment des politiques, qui bien entendu, avec les années qu'ils avaient passées dans le camp, étaient devenus des désaxés. C'était plus des hommes normaux.
Quand vous avez été à Dora, comment ça s'est déroulé les choses ?
Quand j'ai été mis au Todträger, j'étais Vorarbeiter. Je sais que c'est pas beaucoup de Français qui ont été dans les camps et me dire qu'ils ont eu un grade dans les camps. Moi, ça ne me gêne pas.
Traduisez.
Eh bien, c'est-à-dire que j'étais chef d'un commando qui transportait les morts. Alors, je montais les morts et les malades du tunnel. Sans mentir, j'ai sorti beaucoup de Français malades du tunnel, plus que des Polonais ou des Russes, parce qu'ils étaient Français. Et puis deuxièmement, j'avais une chose qui m'aidait beaucoup, que je faisais, alors là, vraiment pour tout le monde. J'étais le dernier à sortir du tunnel en tant que Todträger. C'est-à-dire que quand tous les déportés remontaient du tunnel, moi, je redescendais et j'enlevais les morts et j'enlevais les malades. Mais il arrivait que, aussi bien les Polonais que les Russes que les Français, il y en avait quelques-uns qui étaient tellement fatigués qu'ils s'endormaient. Et ils s'endormaient dans un endroit où on ne les voyait pas. Quand le tunnel était vide et que moi-même j'avais quitté, on balançait les chiens dans le tunnel. Et c'est les chiens qui étaient chargés de sortir les gens qui étaient restés dans les tunnels. Et ça, c'était très mauvais pour eux, parce qu'en général, c'était la mort. Parce que là, il n'y avait pas de témoins, et puis ça emmerdait les SS. Et... Alors, en même temps que je faisais ma dernière tournée du soir de ramassage de morts et de malades, par instinct un petit peu, enfin, j'essayais de regarder un peu dans les coins s'il n'y en avait pas un ou deux qui traînaient, puis je les remontais. Alors là, je prenais de gros risques.
Vous savez que les historiens de Buchenwald précisent que les premiers convois de masse de Français arrivés étaient des convois où il y avait une majorité de droit commun. Voleurs, cambrioleurs, proxénètes, et qui avaient donné une très mauvaise impression des Français parce qu'ils avaient organisé des gangs, un marché noir formidable. Et quand je vous parle de l'hostilité, je ne pense pas tant à celle des SS qu'à celle des co-détenus.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Qu'on soit allemand, qu'on soit polonais, qu'on soit russe, quand on est truand, ils se sont un peu mieux compris avec les truands allemands qui étaient là, parce qu'il y en avait beaucoup aussi.
Oui.
Alors, au début, ils n'ont pas caché qu'ils étaient truands parce que ça les avantageait. Mais après, ils ont tout fait pour le faire oublier. Alors, ce qui comptait dans le camp, c'est la boustifaille. Il n'y a pas de problème. Il fallait se défendre pour la vie. Et le truand savait que quand il venait dans un camp, la majorité des Allemands qui étaient là étaient des truands et que c'était eux qui détenaient la boustifaille. Alors ça, entre choisir les déportés qui n'avaient rien ou choisir les truands qui étaient déjà arrivés avant et qui avaient quelque chose, ça, alors là, j'aime mieux vous dire que je comprends très bien qu'ils aient choisi l'autre. Hein. Au début aussi, il y a eu des colis. Faut dire que le Français qui recevait des colis, quand il passait avec son colis, d'un air très fier d'avoir reçu un colis, il y avait quand même beaucoup de monde qui n'en avait pas. Alors là, il arrivait une chose, c'est que ces lits montaient en étage. D'un seul coup, les Russes ou des Polonais ou d'autres nationalités, même quelques Français, tombaient là-dessus comme des parachutages. Puis d'un seul coup, de son colis, il ne lui restait que le papier. Alors ce qui s'est fait, c'est que pendant quelques temps, quand on appelait le gars pour son colis, il préférait partager avec des Français, alors il demandait à 7 ou 8 Français de venir l'accompagner, et automatiquement il trouvait facilement quelqu'un pour l'accompagner, puisqu'on savait qu'après l'ouverture, il y aurait quelque chose. Mais ça, c'est... Bon, enfin, personnellement, Andorra, j'ai été pris par les Allemands pour un truand, ça, il n'y a pas de problème, même par les Français. Moi, je n'ai pas été considéré par les Français au camp, ils ne pouvaient pas imaginer que, tatoué comme j'étais et tout ça, je pouvais être quelqu'un de la résistance, ça, c'est autre chose. J'avais un ami, je le dis, il s'appelait Maiglet. Quand je l'ai vu, j'ai voulu l'aider, parce que ma position me permettait de l'aider. Étant en taux de tréguerre, j'avais de quoi manger, j'avais même beaucoup plus. Et d'ailleurs, quand je donnais aux autres, je ne donnais jamais ce qui me manquait, je donnais ce que j'avais en plus. Je montais au revire, je prenais le numéro de mort et je touchais du pain. Et j'en donnais aux Français qui trouvaient que j'étais d'un type d'un cœur extraordinaire. Non, je donnais ce que je pouvais plus, quoi. Mais voyez-vous, par exemple, Maiglet, il m'arrivait des fois de ne pas le voir pendant 15 jours. Je disais, ah, où il est ? Merde, je suis là avec 3 ou 4 morceaux de pain, je ne sais pas qu'on... Enfin, foutre si, je pouvais le donner à d'autres. Mais je voulais le donner à lui, parce que c'était mon ami, parce que là aussi, on formait des petits clans.
La mise en route, l'organisation et, pour ainsi dire, la centralisation d'une solidarité collective n'empêchait pas que la solidarité individuelle existait à Buchenwald. Et nos deux derniers témoins de ce soir seront d'abord Yves Dariet, ensuite André Verdet.
Vous me parlez de solidarité, tout à coup j'ai faim ce soir. Je me souviens d'un jour où nous les Français, tout en bloc, c'était pas le mien d'ailleurs, c'était le 39 je crois, a été puni par les SS et privé de soupe. Il y a deux blocs français. Et privé de soupe, ce qui était quand même assez grave. Complètement. Alors là, rien à manger pendant toute la journée. Et en fin de compte, ce sont les Russes, les Polonais et les Tchèques qui ont confectionné une soupe spéciale à leur intention avec je ne sais quoi, mais enfin, elle était fort bonne d'ailleurs. Dans ma mémoire, c'est parce que c'est l'exemple tout de même.
De solidarité internationale.
Non, sur le plan national, on y est arrivé. Enfin, c'était un peu difficile, mais enfin, c'est difficile comme n'importe quoi que l'on veut organiser. et pour lequel on demande certains sacrifices à quelques-uns, et aucun sacrifice à d'autres, si j'ose dire. Mais enfin, on finit par trouver, au nom de la morale et au nom de la raison, quelques arguments qui permettent de résoudre les problèmes. C'est pas simple, mais on y arrive.
André Verdet.
Moi-même, un jour, j'ai lutté contre moi-même. Au seuil de l'hiver, on me donne un manteau superbe. Et j'avais près de moi un vieux qui, lui, a hérité d'un manteau très moche. Eh bien, pendant 24 heures, j'ai gardé ce manteau sur moi, ce beau manteau, chaud. Et je voyais le vieillard qui regardait toujours mon manteau et qui me disait « Ah, vous avez de la chance, vous allez tenir le coup, vous allez passer l'hiver grâce à ce manteau. » Je dis « Toi, je lui donnais ou dois-je pas lui donner ?» Eh bien, j'ai lutté parce que ma vie en dépendait aussi, vous comprenez. Et enfin, au bout de 24 heures, je me suis fait honte et je lui ai donné mon manteau. Et j'ai pris le sien. Évidemment, sur mon dos, c'était rien, quoi. Et je me suis dit, l'hiver va arriver et tu vas claquer. Alors là, je suis allé trouver le comité d'aide, n'est-ce pas, et je dis, voilà, ce qui s'est passé, je n'ai plus que ce manteau, est-ce qu'il serait possible d'en avoir un autre? Et heureusement, enfin, le comité d'aide m'a trouvé un autre manteau et j'ai passé un bon hiver grâce à ce manteau.
C'était La résistance française dans les camps de concentration allemands, une émission de Francis Crémieux. Assistant, Gilbert Maurice Duprez.
C'était l'exemple de Buchenwald, la solidarité, le 9e de 27 épisodes de la série Le Monde concentrationnaire. Une émission de Francis Crémieux avec les témoignages de Jacques Gallier, Yves Darrier, Christian Pinault et André Verdet, diffusée pour la première fois le 6 mai 1965 sur France Culture. À suivre.